Tout débute le 17 janvier 2007. Je viens de lire un article intitulé « Le dirty secret des experts digitaux ». L'auteur dit dans son introduction « Nous sommes arrivés à un constat que peu d'entre nous abordent publiquement. Le digital se complexifie dans l'intégralité des métiers et par conséquence, même s'il est difficile de l'assumer publiquement, la plupart d'entre nous supposés experts digitaux ne maîtrisent pas tout l'écosystème. Et pire, se laissent distancer chaque jour un peu plus. » Séduit par cette franchise, un mois après, nous nous rencontrons et nous échangeons sur le rôle aujourd'hui d'un consultant, sur les contraintes et les opportunités que cela apporte, sur l'avenir de notre secteur de la communication. Et puis, le 23 mai, vous l'avez suivi aussi sans doute, notre invité lançait Vlan, le premier podcast marketing en français et sans bullshit. C'est comme cela que tout débute. Puis progressivement, ce podcast évolue éditorialement et devient un espace de questionnement sur nos identités, notre société et notre travail. Enfin, il y a quelques jours, mon invité prenait la parole dans une interview et disait chercher à aligner ses valeurs et son métier, le marketing. Vaste sujet. Sujet que nous allons aborder aujourd'hui du coup. Je m'appelle Romain Saillet et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Grégory Pouy.
Salut Romain.
Je suis ravi de te recevoir. C'est étonnant, j'ai l'impression d'écouter ma propre radio et du coup d'écouter tes podcasts.
Je suis ravi d'être là.
C'est un plaisir de t'avoir et comme je le disais, parce qu'on a, un peu échangé avant le début de l'enregistrement, à deux titres. Le premier, c'est que ça m'a fait très plaisir de te rencontrer et du coup, c'est intéressant de poursuivre cette conversation. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement que tu as abordé l'autre jour un thème qui me paraissait fondamental, qui est de dire on est de plus en plus à avoir des valeurs, à avoir des combats, à comprendre que finalement ce monde n'est pas aussi simple que ça, qu'il est plus complexe. Et en même temps, notre métier, le marketing, c'est de finalement servir les intérêts d'entreprise. Et la question, c'est comment est-ce qu'on s'aligne sur nos valeurs quand on travaille pour des entreprises qui, elles-mêmes, ne sont pas toujours alignées sur les nôtres. Ma première question est simple, et finalement, je trouve que ton podcast le résume bien. Est-ce que quand on fait du marketing, il est important de revenir j'ai envie de dire, à l'origine, qui est l'humain?
Oui.
Merci Grégory. Eh bien, à la semaine prochaine.
Ouais, je pense
Pourquoi c'est important de revenir à l'humain quand on fait du marketing? On s'est perdu un peu, c'est ça?
Je pense que le rêve que vendent les technologies, qui est de tout optimiser, on est dans une société d'optimisation absolue en permanence, on optimise nos vies tout le temps, un podcast ça permet d'optimiser son temps aussi, on permet de se divertir en faisant autre chose, divertir, apprendre, peu importe. Et on essaye d'optimiser des stratégies marketing du 20e siècle avec les technologies. Et en fait, on se rend compte que ça ne marche pas. Ce qui est intéressant, c'est finalement de voir, moi l'exemple que je prends souvent, c'est de voir des marketeurs qui font dans la dentelle, comme pour une nappe, mais en fait, ils n'ont pas la nappe. Et en fait, revenir à l'humain, c'est revenir à la nappe. Et effectivement, tu verras si tu fais dans la dentelle ensuite, mais faire dans la dentelle quand tu n'as pas la nappe, bah en fait, tu brodes rien. Quoi. Enfin, tu brodes en interne. Mais
ça veut dire quoi, la nappe en marketing?
Bah, la nappe en marketing, c'est de faire un produit qui correspond à la société aujourd'hui. En fait. Et la société aujourd'hui, elle est en mouvement hyper fort. Les consommateurs, ils attendent. D'abord, deux tiers du marketing est fait par tes consommateurs. Donc, il n'est pas fait par ta pub, donc tu mesures des choses que de toute façon, tu ne maîtrises pas. Quand tu fais de la pub, etc., en fait, tu te fais plaisir et tu te rassures, mais finalement, tu ne maîtrises pas ce que tu es en train de faire. Et la question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les valeurs immuables sur lesquelles je peux travailler et qui touchent l'humain? Et en fait, l'humain, il est assez simple, il ne bouge pas trop. C'est que tu t'intéresses à moi en tant qu'humain, que tu prennes des postures. Moi, je fais confiance qu'aux personnes que je connais. Un humain, je ne parle pas de moi spécifiquement, évidemment. Moi y compris, hein, donc je reste un humain aussi. Et toutes ces valeurs qui sont basiques et en même temps essentielles. Et en fait, les marques, elles ont complètement oublié ça. Je pense qu'on est parti dans une globalisation à outrance. Et aujourd'hui, je crois qu'on va revenir à une forme de localisme pour plein de raisons. D'abord, pour celles que j'ai évoquées, c'est-à-dire on ne fait confiance qu'aux gens qu'on connaît. Mais aussi, je pense que la taille déresponsabilise. Et plus tu es dans une grosse boîte, plus tu te dis « Ouais, mais là, c'est trop compliqué, en fait. » Donc, du coup, je ne vais pas Tu sais bien, moi aussi, je pense comme toi que la boîte devrait être plus responsable. Non, on va faire ci, on va faire ça. Mais en fait, tu sais, ça me dépasse totalement. On est 15 000 dans la boîte. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Et c'est...
Finalement, c'est très proche de ce qu'on vit, nous, à titre perso. Bien quand sûr. On se dit, il faut qu'on change le changement climatique, par exemple, on se dit, ouais, enfin, finalement, on est quand même 7 milliards.
C'est ça. En fait, l'humanité, les humains sont globalisés. Ça, c'est une réalité. Ça ne changera pas des masses. Je crois vraiment qu'on va revenir vers du localisme. Pas dans une dynamique de repli sur soi, mais dans une dynamique de... cohérent, je ne sais pas si c'est cohérent, mais en tout cas, logique de... pour être responsable, il faut être responsabilisé. Pour être responsabilisé, il faut être dans une communauté plus petite. Dans un village de 150 personnes, où tout le monde te connaît, et où tu connais tout le monde, tu feras vachement moins de merde que dans une ville où t'es 8 millions et où tout le monde s'en fout, en fait. Et je crois que c'est la même chose pour les entreprises. Donc, revenir à l'humain pour l'entreprise, c'est même pas un moyen nécessaire, c'est indispensable pour aller toucher ce que les gens attendent, par exemple. 90% des consommateurs attendent que les marques prennent une posture politique, c'est-à-dire qu'ils prennent une posture sur un sujet... qui a un trait avec leur raison d'être, et qui disent, ben, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Mais ça veut dire, quand tu fais ça, que par définition, tu ne vas pas plaire à tout le monde. Sauf que les marques au XXe siècle, ce qu'on a beaucoup appris, c'est qu'il fallait plaire à tout le monde, le marketing grand public, tu sais.
Et puis parce que ça veut dire aussi que les marques ne connaissent peut-être pas aussi qui elles sont.
Alors bon, ça, c'est encore un autre souci, mais...
Oui, mais c'est peut-être le souci initial, en fait. C'est qu'elles ne savent pas qui elles sont, ou qu'elles ne savent pas comment elles doivent prendre parti et comment elles doivent prendre la parole.
C'est plus ou moins le souci initial. C'est un souci initial, bien sûr, mais en plus, 90% des marketeurs en image ne veulent pas prendre de position politique. En fait, ils ont peur de prendre des postures politiques. C'est-à-dire que quand Nike le fait, par exemple, ou d'autres, ils applaudissent de deux mains, mais ils ne seraient pas capables de le faire eux-mêmes pour leur propre marque. Oui, mais nous, c'est différent, tu comprends. J'ai déjà posé la question, évidemment, à pas mal de marques. Et en fait, ils disent, oui, mais non, mais nous, tu comprends, c'est différent, nous, c'est pas pareil, nous, on n'a pas de sujet, etc., etc. Nous, tu vois, on fait des shampoings, on fait peu importe ce que tu fais. On n'a pas de position politique à prendre particulièrement.
Est-ce que ça oblige les marques, finalement, à arrêter de s'auto-centrer et de s'ouvrir et est-ce qu'elles découvrent un monde qu'elles ne connaissent pas, finalement?
Je pense que ça fait hyper peur de découvrir un monde que tu connais pas. Je pense que ça fait hyper peur de sortir du cadre. C'était le nom de mon blog il y a 15 ans, donc c'était le bien nommé sortir du cadre. donc pour revenir à ta question initiale, parce que je m'écarte un peu, mais bien sûr qu'il faut revenir au sense of purpose, donc à la raison d'être de la marque, aux valeurs, ce que les marketeurs ont en général du mal à faire, parce qu'en fait, ils ont l'habitude de demander à des agences qui leur sortent des trucs qui sont un peu à la mode, mais ça viendrait jamais à l'idée d'une personne de demander aux autres de la définir. Tu vas jamais me demander à moi c'est quoi mes valeurs, tu vas jamais me demander c'est quoi ma raison d'être. Tu vas essayer de le définir toi-même, tu vas faire de la méditation, aller voir un psychologue, enfin peu importe les méthodes, mais tu vas le définir toi-même, tu vas pas demander à quelqu'un d'autre de le définir pour toi, ça n'a aucune logique de faire ça. Comme quand tu as des valeurs, tu vas pas les afficher sur le mur chez toi pour dire regardez, c'est ça mes valeurs quand tu viens chez moi. En fait,
si je suis comme Mark Zuckerberg, je vais.
La réalité, c'est que tu vas te comporter d'une certaine manière et que moi, je vais juger et je vais t'attribuer des valeurs. Mais simplement, il faut que tu sois un peu consistant, un peu cohérent dans la manière dont tu agis pour que je puisse t'accorder ces valeurs. Parce que sinon, c'est compliqué en fait. Et pour les marques, c'est pareil, pas plus compliqué. Donc effectivement, ça implique de se connaître, de les avoir, de recruter de manière associée à ces valeurs et à ce sense of purpose, ces raisons d'être, de faire des choses qui sont cohérentes par rapport à ce sense of purpose. Tu peux pas dire, par exemple, je prends l'exemple de Danone. Bon, Danone qui fait plein de trucs bien, je sais pas si t'as remarqué, ils font des trucs géniaux, tu vois, pour les femmes, c'est une marque très responsable.
Et le CEO a pris la parole il y a pas longtemps, enfin,
Emmanuel Faber,
à mort.
Mais,
deux années, ouais.
C'est une boîte qui vend de l'eau dans des bouteilles en plastique, donc leur métier c'est comme de vendre du plastique, et en plus qui le transporte dans le monde entier, sachant que les bateaux polluent 50 millions de fois plus que les voitures. À quel moment tu peux te dire que c'est logique de boire de l'eau française au Japon ou aux États-Unis quand ils ont de l'eau eux-mêmes, et que cette pollution elle est complètement inutile en fait? Et là,
ça pose la question de la cohérence.
Il y a un petit problème de cohérence, tu vois, parce que du coup, tu te dis, bon, et je pense que ils ont passé, en fait, le problème aussi, c'est que du coup, ces marques-là, que ce soit Evian ou autre, ils ont passé des années à construire une marque globale Et donc, ils vont pas dire, bah ouais, non, mais c'est vrai, Greg, t'as raison, on abandonne le business. C'est pas ça. Mais c'est quel nouveau type de service, par exemple, si c'est Live Young, tu vois, typiquement vivre jeune, etc. Admettons que ça soit le sense of purpose des gens, hein, plus que juste un claim publicitaire. Ben, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux aider les gens à faire ça? Via du service local, et pas en transportant des tonnes d'eau par bateau, alors que les gens, ils ont déjà de l'eau là où ils habitent, en fait. Ça n'a aucun sens.
Oui, et puis vendre des choses qui est un besoin primaire juste pour l'homme, ça pose la question aussi de quel type de marché tu es en train de développer, quoi.
Non, mais des produits primaires, pourquoi pas, mais des biscuits ou des yaourts, ils en font aussi au Japon, en Inde et aux États-Unis ou au Brésil. T'as pas besoin de les transporter de Paris, en fait. Ça n'a aucune logique. Ça a un peu plus de logique, par exemple, pour l'alcool, admettons, parce qu'effectivement, il y a du champagne ou du whisky qui est fait de telle manière, avec un tel ensoleillement, donc du coup, ça a un goût différent. À la limite, je veux bien comprendre. Mais au final, tu vois, c'est des questions qui sont tellement abyssales que c'est quand même vachement plus simple de pas se les poser, en fait.
Quand t'as lancé Vlan, au départ, tu voulais faire un blog sur le marketing.
Podcast.
J'ai dit quoi ?
Blog.
Blog, excuse-moi. Parce que tu as un blog aussi. Un podcast, pardon. Autour du marketing. Et puis très vite, finalement, ça a évolué. Mm. Aujourd'hui, tu es plus sur des questions de société. Mm-hmm. Est-ce que, en fait, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que tu avais, dès le début, l'envie d'aborder ces sujets, mais tu ne savais pas comment le faire. Et puis, bon an, mal an, finalement, ça s'est fait parce que ça s'est imposé à toi. Et finalement, tu t'es dit, mais oui, les marques doivent prendre des décisions, des postures politiques, et plus que des postures, des décisions et des choix. Mmh. Ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que depuis le début, au fond de toi, cette idée que des marques doivent évoluer ? C'est ce podcast, finalement, qui t'a permis de révéler ça ?
Le podcast, en fait, je ne sais pas si je vais répondre à la question. Je ne vais pas y répondre en un ou deux, mais en tout cas, je vais t'expliquer le processus. Basiquement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une discussion avec Fred Cavazza, qui est un autre blogueur, pour se rendre compte que nos articles, qui sont des articles plutôt de fond, encore plus que moi, je pense, étaient de moins en moins lus, en fait. Et moi, je voyais bien sur SlideShare, où j'étais très fort, il y avait de moins en moins de lectures sur ces articles ou sur ces présentations. Et en fait, je me suis dit, bon, ça pose un problème. Et l'analyse assez rapide qui a été faite dans ma petite tête, c'est, bon, de toute évidence, les gens, et parce que je le constate sur moi-même, n'ont plus le temps de lire des articles de fond. Parce qu'en fait, tu as des notifications, tu laisses la table ouverte, et puis en fait, tu retournes jamais, en disant que tu retourneras, mais en fait, tu ne retournes jamais. Au bout d'un moment, tu fermes Chrome ou Internet Explorer, ou peu importe le...
Ou le mieux, c'est quand tu mets dans Pocket, en disant, un jour, je lirai.
Voilà ça, ou alors tu mets dans Pocket.
Ça, c'est vraiment le pire de tout.
Et en fait, tu n'y retournes jamais, même avec tes petits mots-clés. Bon. Donc, je me suis dit, ça, premier truc. Deuxième truc, moi, ma valeur, elle est aussi dans mon réseau, et un podcast, ça peut me permettre de mettre en avant mon réseau. Troisième truc, c'est que mon blog, il était très connu à un moment donné, qu'il l'était moins parce que j'étais parti aux États-Unis, etc. Et l'avantage du podcast, et comme toi, j'avais essayé les vidéos sur Facebook aussi à un moment donné, ça permet de donner un ton qui, lui, n'est pas vraiment copiable. Donc j'ai lancé ce podcast comme ça, en me disant, ça va permettre, comme un outil de ce qu'on appelle du inbound marketing.
Oui. le fameux marketing pool, hein,
inbound marketing. Non, c'est un nom à la con pour dire...
marketing pool.
ou en tout cas faire en sorte de créer du contenu qui fait que ça ramène des clients. Bref, ça m'amuse toujours qu'on invente des nouveaux...
Ça, c'est vraiment la famille du marketing.
des nouvelles terminologies à la con pour dire des trucs qui existent déjà. Bref. Donc c'était l'idée à l'origine. Et en fait, c'est pas que le marketing ça m'intéresse pas, mais moi ce qui m'a toujours passionné, c'est toujours la sociologie et mon angle d'attaque, ou en tout cas ma manière d'envisager le marketing, ça a toujours été le bon sens et l'humain. Mon mémoire de fin d'études, donc il y a 20 ans, c'était le temps maître facteur clé du 21e siècle, tu vois, donc c'était vraiment un truc un peu plutôt limite philosophique, et c'était il y a déjà 20 ans, donc ça a toujours été là. Et naturellement, j'ai glissé. Parce qu'en fait, je m'ennuyais moi-même sur mon podcast, en fait, à interroger des CDO et des directeurs marketing qui, de toute façon, tenaient un discours qui était plus connu, reconnu, donc qui amenait de l'audience, ça permettait de montrer mon réseau aussi. Hein. Bah, plus ils faisaient de la langue de bois, ce qui est logique.
Et plus ils étaient en plus auto-persuadés de ce qu'ils faisaient. Donc, ce qui rend les choses...
Non, pas nécessairement. Non, ils sont quand même pas idiots, donc ils sont pas forcément auto.
Non, mais l'exercice sur un podcast aurait pu être d'affirmer une position, et même si eux-mêmes, au fond, ils peuvent l'affirmer,
après tu peux discuter avec eux quand même. Ouais. C'est des gens que je connaissais bien, hein, tu vois, que ce soit... Bon, Georges Mohamed Chérif de Buzzman, ouais. Il est plus franc du collier, on va dire, il se permet de l'être, mais il y en a d'autres qui sont dans les marques, c'est plus compliqué. Et donc, naturellement, ça a dévié vers des sujets plus larges, effectivement, mais qui sont... finalement, toujours marketing, quand il pense, parce qu'un marketeur, il est censé comprendre comment la société évolue. Et en fait, ce que j'ai fait sur mon podcast, c'est comprendre comment la société évolue. Et finalement, donc j'ai commencé par les relations amoureuses à l'ère du digital, j'ai commencé par les marques ne savent plus parler aux femmes de plus de 40 ans, j'ai commencé par, tu vois, de vriller un tout petit peu le bonheur, tac, tac, tac. Et en fait, plus le temps avançait, maintenant ça fait 2 ans, il y a 95 épisodes, je crois, de mémoire, 94 peut-être, on parle, mais plus de 100 enregistrés en tout cas, c'est sûr. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai dévié de plus en plus à analyser comment la société évoluait. Et là, dernièrement, j'avais des épisodes, tu vois, sur les ombres, comment gérer sa partie sombre, etc. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre parce qu'en fait, c'est les épisodes qui marchent le mieux, bon, statistiquement. Et je me suis dit, mais en même temps, c'est pas du tout l'évolution de la société, je fais du développement personnel, là. Et j'ai réfléchi et je me suis dit finalement j'analyse 3 choses sur mon podcast sur Volant. Je fais c'est de la relation pure, relation à soi, relation aux autres, relation à la nature. Donc c'est ça que je fais sur Volant maintenant. Et en fait, ça m'a permis de me redéfinir comme une sorte d'analyste culturel et pas trop de marketeur. Mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est en lisant un bouquin. De réaliser que cette trilogie, c'est quelque chose qui a été écrit il y a des milliers d'années et qui est à la base de l'hindouisme.
D'accord, ok.
Et en fait, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que ça m'est venu de manière naturelle. Et alors, donc de manière assez humble, tu te rends compte que ça a été écrit il y a des milliers d'années déjà. Mais en plus, je trouve ça intéressant, alors je ne sais pas s'il y a des sens humaines, mais en tout cas, je trouve ça intéressant que de manière assez empirique, naturelle, tu vois, instinctive, je sois revenu à ces trucs-là. Donc voilà. Et je crois que ce podcast, il est extrêmement utile pour des marketeurs qui sont curieux, intelligents. Je sais pas si c'est intelligent, mais en tout cas...
Ouvert
à comprendre comment le monde évolue. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas... Comme le digital, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est quand même principalement un état d'esprit. Bah, ça te permet de comprendre cet état d'esprit. Je crois, enfin j'espère. Même si ça ne s'adresse pas qu'aux marketeurs, évidemment. Mais...
Quelle est la plus grosse claque que tu as prise en faisant ce podcast? Alors, tu l'as dit, il y a entre 90 et 100 émissions aujourd'hui. Il y en aura beaucoup d'autres, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un invité particulier, un sujet particulier? Tu sais, quand on fait des podcasts ou des émissions, il y a souvent des fois où il y a des sujets plus faibles. On sait qu'on fait un sujet plus faible, mais on le fait parce que ça nous paraît être un moment, enfin surtout un sujet important. Et puis on le fait parce qu'on se dit que finalement, peut-être qu'on va apprendre des choses. Et en le faisant, on se prend une énorme claque en se disant « j'avais pas vu l'intégralité du sujet et en fait, c'était passionnant ». Est-ce que tu as vécu ça, toi, avec Volant ?
Pas ça, je crois pas, mais des claques, t'en prends. En fait, je suis quelqu'un de très curieux, en fait. Donc, je suis ravi, étonné même, parfois, des gens que j'arrive à avoir. Et des conversations que ça génère. Et surtout, en fait, la plus grosse claque, finalement, c'est le retour des gens. C'est-à-dire qu'en fait, au début, je me disais, Volant, c'est quand même un podcast un peu intello. Ça ne va pas intéresser. Enfin, ce n'est pas ça qui va intéresser les gens. Je ne me trompe pas trop. Hein. Cela dit, c'est vrai que les trucs de développement personnel marchent mieux que le reste. On ne va pas se mentir. Mais néanmoins, j'ai des retours qui me permettent moi-même de mettre des mots sur ce que je fais. En fait, ça, c'est assez marrant d'avoir un retour extérieur qui te permet de mieux comprendre ce que toi-même t'es en train de faire.
C'est ce qu'on appelle une conversation, non ?
Tu vois que le miroir, en fait, te permet d'avoir un meilleur recul sur toi-même. Et c'est ça qui est le plus intéressant, choquant, je trouve. Pas tant les personnes que je reçois. Les personnes que je reçois, en fait, c'est souvent... des personnes que je connais déjà ou qui sont dans mon réseau, avec qui j'ai des conversations existantes. Pas toujours, hein, mais quand même beaucoup. Et j'essaie d'apporter ça. En fait, c'est une forme d'acte politique, ce podcast, mais aussi un acte de générosité quelque part. Et pas que ça, il y a aussi une dimension autour de moi, etc., qui existe, hein, évidemment. Mais il y a quand même ces deux dynamiques-là. Mais vraiment, je pense que le plus choquant, intéressant pour moi, c'est de voir des retours de gens qui sont merci, quoi. Enfin, et c'est assez fou. Enfin, moi, je trouve ça assez cool.
C'est quoi le combat qui te touche le plus aujourd'hui? Parce que finalement, il y a eu beaucoup de sujets que tu as abordés sur Vlan. Est-ce qu'il y en a un parti? Parce que finalement, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a l'identité, il y a l'écologie, il y a... Enfin, il y en a des tonnes, je pourrais pas tous les lister. Est-ce qu'il y en a un particulièrement?
Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. En fait, c'est-à-dire que, en réalité, ce que je fais, c'est donc cette trilogie, donc relation à soi, relation aux autres, relation à la nature, donc qui regroupe l'intégralité des sujets, finalement. Ouais, tout tombe dans l'un de ces trois trucs. Avec un objectif pour moi, finalement, après réflexion, de définir c'est quoi la nouvelle spiritualité de société, spiritualité laïque. Parce que ça me semble évident que la manière dont on vit depuis une centaine d'années, on va dire, est en train d'être évolue. C'est une parenthèse, c'est une anomalie de l'humanité. En même temps, on n'a pas de récit, on n'a pas d'autre récit. C'est-à-dire qu'on a un récit capitaliste qu'on connaît bien et dans lequel c'est très facile de mettre ses œillères et de foncer, de courir sans trop savoir où tu vas, comme, un petit, là, tu sais, comme une poule sans tête. On a un autre récit qui est le communisme, dans lequel personne, moi y compris, n'a pas du tout envie d'aller. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont envie d'y aller, mais en tout cas, moi, pas du tout. Et en fait, on manque de récit. Et en fait, je pense qu'on a tous conscience que la manière dont on vit dans les pays occidentaux n'a aucun sens et en plus ne rend personne heureux, c'est-à-dire que si la concentration des richesses, comme c'est le cas aujourd'hui dans les pays occidentaux, en France par exemple, rendait tout le monde heureux, on le saurait. C'est-à-dire que, mais bon, tu vois les gilets jaunes, tu vois bien qu'on a le même niveau de bonheur que l'Iran, donc bah, concrètement ça marche pas. Enfin, en plus on voit bien que le modèle marche pas, hein. C'est-à-dire que la concentration de richesses, ça rend pas heureux, sinon on le saurait en France. Hein. Tout le monde n'est pas heureux, on est même plutôt pessimiste. Donc en fait, je suis en train de réfléchir à, et c'est ça mon idée, c'est quoi cette nouvelle spiritualité? Et à mon sens, les premiers éléments que j'ai, en tout cas, c'est sans doute une réduction drastique de l'individualisme pour un peu plus de collectif dans l'éducation, dans le travail à tous les niveaux. Du localisme, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'on va arrêter dans une sorte de mouvement inverse de la globalisation. Du coup, il faut trouver une sorte d'équilibre, c'est ça qui est intéressant, hein, mais, entre globalisation et localisme, tant pour le gouvernement que pour les entreprises. Je pense qu'il va y avoir aussi un lien qui va se recréer entre les générations. On le voit en train d'arriver, c'est vachement intéressant, pas du tout chez nos parents, mais entre nous peut-être, ou les plus jeunes et les plus anciens. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Bref, en fait, je suis en train d'essayer de voir sans doute aussi la fin du consumérisme complètement fou, même si aujourd'hui c'est quand même dans notre culture très fort, mais sans doute une forme de contentement, un peu comme dans le bouddhisme, sans doute la fin de l'optimisation absolue. Je pense que ça, c'est en train d'arriver doucement, mais en tout cas, moi, je vois bien que ça commence à me saouler méchamment de dire « Ah, tiens, je suis tellement occupé. C'est très facile de se dire ça. » Et voilà. Occupé à regarder Instagram, tu sais. Parce qu'on y passe quand même des heures par jour, par semaine.
Et bon. Maintenant que Apple a mis à jour son OS et qu'on peut voir le nombre d'heures, effectivement, c'est questionnant.
C'est abyssal. Hein. Mais c'est tellement accepté socialement que ça pose de questions à personne. Donc voilà, enfin, tu vois, j'essaie de définir cette spiritualité de société.
Et quand tu, et pour reboucler sur le début du podcast, on parlait des marques et de leur vision politique. Est-ce que quand tu définis ces grands axes de réflexion politique presque, même complètement d'ailleurs, qu'est-ce qu'elles en pensent? Et est-ce que ça les, est-ce qu'elles sont réfractaires? Est-ce que tu sens qu'il y a une écoute active ou est-ce que c'est une écoute passive à base de oui, on verra.
Alors,
ça dépend des marques, je suis sûr.
Mais... Alors, il n'y a pas de marque, il y a des humains, en fait. Et dans ça, il y a deux typologies de réactions. Les humains à qui je parle, tu vois, qui sont des patrons de boîte ou des dirigeants de société, sont tous liés à ce que tu racontes. Il n'y en a pas un qui va dire « mais non, mais pas du tout ». C'est-à-dire que, bien sûr, que quand tu leur dis ça, ils te disent « bien sûr, évidemment ». Après, ils ont aussi une deuxième posture, qui est « bon, bah oui, mais en même temps, mais comme toi, comme moi, oui, mais alors, pardon, mais en fait, déjà, j'ai fait énormément d'efforts pour arriver là où j'en suis, c'est le premier truc. Deuxième truc, j'ai un salaire qui est assez élevé. Et je vois pas trop par quel bout je vais commencer par le réduire. Qui est une vraie question que moi, je me pose aussi, hein, d'ailleurs. Et donc, c'est hyper sympa ton discours. Mais comme j'ai pas un récit alternatif dans lequel je peux me projeter, eh ben, en attendant, je vais continuer comme ça. Et en fait, si tu vas dans l'effondrement, tu vois, toutes les thèses de la collapsologie, moi, personnellement, je pense que c'est une théorie, et c'est marrant, j'enregistrais Joël Doronet, tu vois, qui me disait la même chose, d'ailleurs, sans que je lui souffle, moi, ce que je pensais, mais il m'a confirmé, en tout cas. En tout cas, on était d'accord tous les deux, ça ne veut pas dire que c'est une règle absolue, mais enfin. Moi, si tu me dis, maintenant, c'est trop tard, quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est trop tard. Bon, bah, tu sais quoi, je vais continuer à vivre comme je vis, puisque si c'est trop tard, autant en profiter, quoi. Enfin, tu vois. donc, ce discours-là, je pense qu'il ne marche pas très bien. Je pense que, moi, mon idée, ça serait idéalement qu'on regarde dans 10 ans, 20 ans, la manière dont on vit aujourd'hui et qu'on la regarde de manière en se disant que c'était complètement archaïque, ridicule, comme quand on regarde quelqu'un qui fume à l'intérieur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 10, 15 ans, ça nous semblait être, bon, j'ai jamais fumé, mais une violation absolue de nos droits et de notre liberté. Aujourd'hui, on regarde, c'était complètement con quand même de fumer à l'intérieur et de fumer avec des gosses dans la voiture, enfin, tu vois. Et je pense que demain, dans quelques années, on se dira, putain, mais commander des sushis un dimanche soir, non mais allô, quoi, sérieusement, les mecs, quoi, non, mais n'importe quoi. Et je pense qu'on regardera, enfin, moi, j'aimerais bien, de manière assez positive, qu'on regarde notre vie aujourd'hui, notre mode de vie. Donc, ça n'a pas besoin d'être douloureux, en fait. Tu vois, à partir du moment où tu as un nouveau récit, où on te raconte une nouvelle histoire et tu peux te projeter dans quelque chose, et les marques, enfin, pour revenir à ta question, bien sûr, elles sont d'accord avec ça. Simplement, elles n'ont pas ce nouveau récit. Et elles sont obligées de tenir ce cerf-volant demain, de dire, bah, d'un côté, j'ai mes actionnaires, tous mes salariés, tu vois, je ne peux pas les laisser tomber. Toute la logique autour du succès, tu vois, qui est le profit, la croissance, le progrès. Et de l'autre côté, je vois bien que ça ne marche pas, en fait. j'essaye de gérer mon petit cerf-volant comme je peux. Et elles sont là-dedans. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai envie de les aider, justement, à aller plutôt du côté de « ça ne marche pas, il faut un nouveau récit », parce que je pense que les marques, elles ont la puissance de raconter des nouveaux récits, celles qui ont l'argent et celles qui ont la part de voix, on va dire, pour le faire. Et moi, l'idée que j'ai pour les marques, c'est finalement, autant les CSP plus urbains, ils ont la liberté, ils ont le choix, et ils peuvent se poser la question de leur consommation, de leur responsabilité sociale, etc. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas le loisir de se poser la question parce qu'ils consomment ce qu'on leur donne, parce qu'ils passent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps à bosser et à essayer de faire finir les fins de mois, quoi. Et je pense que les marques vont modifier leur offre pour plaire aux CSP plus urbains, machin, que nous sommes, et qu'elles ont cette puissance de généraliser une offre responsable pour le grand public. Et ça, je trouve ça hyper positif comme message pour elles. Et j'aimerais bien les entraîner par là, en fait.
Tu parlais d'un nouveau récit, ce que je trouve vraiment très intéressant comme sujet. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, selon toi, sont en train d'écrire ce récit? Alors, pas obligatoirement des marques slash humains, hein, mais est-ce qu'il y a des experts? Est-ce qu'il y a des anciens blogueurs qui, comme toi, changent de format et finalement continuent à faire leur métier, qui est de documenter le réel? Est-ce que tu vois d'autres... un mouvement qui est en train de se créer autour de ça?
Alors, ouais. Ce qui est assez abyssal, c'est que finalement, quand tu t'intéresses au sujet, tu te rends compte qu'il y a des tonnes de gens qui posent sur la question.
Okay.
Tu vois, par exemple, l'Institut des Futurs Souhaitables. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui pose cette question, des sociologues comme Eranos, donc des sociologues de l'imaginaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui posent ces questions. Et en même temps, ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, même les... Enfin, par exemple, des planeurs strat en agence ne les connaissent pas, n'en ont pas entendu parler. Donc, c'est là où tu te rends compte qu'il y a un gap important d'intellectuels qui réfléchissent à la question, mais entre eux, et qui restent dans une sorte de bulle. avec mon petit mouvement, je ne sais pas si c'est un mouvement, parce que moi, en fait, si tu veux, du coup, j'ai aucune expertise du domaine, on est bien d'accord, hein. Je revendique aucune expertise, et je revendique, je ne peux pas être donneur de leçons, parce que moi, j'adore prendre l'avion, je bouffe de la viande, j'ai une moto, enfin, tu vois, je ne suis pas du tout exemplaire. Mais justement, je pense que ça dédramatise de dire, les mecs, je suis comme vous, en fait. Mais par contre, en fait, j'ai l'impression que on peut y arriver ensemble et on peut. Moi, je suis assez fort pour vulgariser les choses. Enfin, tu vois, si j'ai une qualité, on va dire, j'ai pas mal de bon sens. Et j'aime bien vulgariser. Donc, en fait, je vais essayer de. Je sais pas si c'est vulgariser, parce que j'aime pas le terme dans le sens vulgariser. Souvent, on a tendance à penser que je me mets au niveau des autres. Oui. C'est pas tant ça,
en
mais
fait, c'est. C'est un travail de passeur.
Ouais, voilà, tu vois, de. Communication.
Ouais, de connecteur.
Ouais. Et j'aime bien faire ça. Et donc, oui, il y a des tonnes de gens qui réfléchissent à la question qui sont hyper pertinents, vraiment. Et voilà. Moi, je ne le suis pas. Par contre, j'essaye de le savoir sur mon podcast.
Où c'est finalement un nouveau métier, enfin, qui est un métier extrêmement ancien, finalement. Mais ça peut être aussi une nouvelle forme de métier qui est de dire il y a des personnes qui réfléchissent, qui sont brillants pour créer des concepts. Et la question, c'est comment on les rend réels, en fait.
Ouais, voilà. Et moi, je pense que les marques peuvent les aider à les rendre réels. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui sont hyper écolos, on va dire, sont un peu frustrés, parce que ça fait des années qu'ils travaillent sur la conscience écologique et qu'aujourd'hui, c'est là. Je pense que tout le monde a une conscience écologique à peu près dans les pays occidentaux, en tout cas, mais même en Chine, enfin bref, dans plein de pays. Et en même temps, ils ont tellement travaillé pour ça. Et quelque part, tu sais, quand tu as un combat, le problème, c'est que quand ton combat arrive à la fin, c'est pas une bonne nouvelle parce que tu n'as plus de combat. Donc, comme ton combat en général, c'est ton identité, quand tu n'as plus de combat, tu perds un peu de ton identité. Ça peut sembler un petit peu contradictoire, mais je pense que c'est assez vrai. Donc il y a ça, et surtout ils sont anti-marques, alors que moi je pense que les marques, elles ont une énorme part du travail à faire. Donc oui, j'aimerais bien aider les marques à faire ça, parce que je pense qu'il y a un vrai truc, mais il y a de plus en plus de gens qui le font. J'ai reçu une femme, qui dirige Utopie, qui fait ça depuis des décennies. Donc voilà, il y a plein de gens qui réfléchissent à la question, vraiment.
Ton podcast Vlan a un certain nombre d'écoutes. C'est un podcast qui est aujourd'hui écouté, qui est suivi et qui, on suit scrupuleusement semaine par semaine.
Je sais pas, mais.
si, quand même, tu arrives au numéro 90, 100, c'est que ça commence à devenir.
Ça a passé les 100,
il commence à y avoir une cohérence forte dans ce que tu fais. Tu le vois où, ce podcast? Ça restera un podcast? Tu as des envies? C'est quoi la suite?
Pour l'instant, c'est un podcast. Et j'envisage d'en faire un bouquin. J'aimerais bien. En tout cas, j'essaye de structurer ma pensée. Et je sais par expérience qu'écrire, c'est une bonne manière de structurer ta pensée. Donc voilà. Mais en même temps, les gens ne lisent pas les bouquins. Donc je ne sais pas. Pour l'instant, c'est un podcast. Ma seule envie, c'est de creuser ce truc de c'est quoi la spiritualité de la société demain, en interviewant des personnes, et toujours sur ces trois axes dont j'ai parlé, et voir comment certaines personnes arrivent à changer elles-mêmes. Tu vois, quand j'ai reçu, par exemple, Olivier Morel, qui fait Travailler plus pour gagner quoi, ou là, que je viens d'enregistrer, mais qui n'est pas diffusé encore, Lily Barbery-Coulon, qui était rédac chef beauté au magazine Le Monde, et qui a complètement changé de vie. C'est des gens que je trouve intéressants, parce que, d'abord, ils avouent leurs contradictions, et je trouve que c'est bien de le faire.
Désacraliser un peu le sujet.
C'est ça. Et puis, donc il y a toute cette partie-là que je trouve intéressante, très humaine. Voir comment les entreprises peuvent accéder à ça. Et là, je rencontre des dirigeants de boîtes que je ne passerai pas forcément sur Vlan, mais en tout cas, j'essaie de comprendre comment elles envisagent les choses, et j'essaie de les faire bouger aussi. Voir la gouvernance avec l'État. Enfin, tu vois, tout ça. Et après, je ne sais pas ce que ça deviendra. Pour l'instant, c'est ça. Les gens en font ce qu'ils veulent, mais moi, ma quête, c'est de définir et d'aider à définir et d'aider à aller dans ce mouvement. Parce que, en fait, de toute façon, on sait que ça changera. Notre mode de vie actuel n'est pas tenable. Ça, je pense que tout le monde est assez d'accord pour l'accepter. Soit tu décides de rester comme ça jusqu'à ce que tu te prennes une énorme claque dans la gueule, c'est possible. Soit tu changes, qui fait que ça sera même pas une claque, parce qu'en fait, en réalité, ben, ça sera juste normal, en fait. Enfin, tu vois, ça sera même pas, il y aura pas de violence dans ce mouvement, tu vois, parce que tu l'auras choisi. C'est comme Enfin, tu vois, à partir du moment où tu prends une décision et que tu changes toi-même, bah, du coup, le changement n'est pas violent parce que tu l'as décidé.
Tu vois, surtout si tu l'as compris et que ça fait sens pour toi.
Ouais. Exactement. Et en fait, moi, j'aimerais bien accompagner ça. Enfin, j'essaie de le faire, en tout cas.
Comment on peut te contacter si on a envie de t'accompagner dans cette... T'as parlé de quête, alors du coup, j'ai envie de dire dans cette aventure.
C'est une enquête. C'est une enquête en deux mots, en fait. C'est une quête. Je suis en quête et c'est une enquête aussi.
Déjà, t'as trouvé le titre de ton bouquin.
Voilà. On peut me contacter de plein de manières, sur Twitter. Je suis après partout sur les réseaux sociaux comme Greg Van Paris.
Okay.
Et il y a un Instagram pour le podcast qui s'appelle Vlan Podcast, bêtement.
Et du coup, on peut te contacter et puis peut-être...
En général, je réponds à tout le monde. Ouais, quasiment.
Bon. Merci Grégory.
Merci à toi.
Merci à tous d'avoir écouté cette conversation. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à écouter peut-être d'autres conversations. Ça peut vous intéresser. Très bonne journée à vous.